premier jour, nous avions vu comment nous réconcilier avec notre être de femme à travers tout ce qui se passe, à travers toutes les déviances et du féminisme radical hein, qui nous a amené à bien des malheurs aujourd'hui, que la femme ne sait plus du tout où elle en est. Donc, à travers ces erreurs du féminisme, on a donné un coup de projecteur sur la Genèse pour regarder qu'est-ce que Dieu... Et c'est là qu'il faut venir quand ça ne va pas bien, quand c'est le marasme, et on revient à l'origine. Qu'est-ce que Dieu a voulu dans son plan d'amour sur la femme, sur le bonheur pour la femme? Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est vraiment indispensable, vous allez voir, on va devoir se raccrocher à des choses mais basiques et essentielles, et revenir à l'origine. Et voilà, alors on a vu tout cela, ce que Dieu a voulu, cette belle complémentarité qui s'exprime ici par ces petites statues, hein, où l'homme, voilà, la femme a été créée en vis-à-vis, hein, en vis-à-vis de l'homme, hein, pour être de visage à visage, permettre à l'homme de communiquer son amour. On a vu aussi qu'il devait être un protecteur et que nous, on devait être aussi une colonne d'appui pour lui, qu'il avait aussi besoin de la femme comme colonne d'appui. Nous avons vu aussi, mais en même temps, nous, on a besoin de sa protection. Donc, il y a tout un jeu, un ajustement pour nous, femmes, pour trouver vraiment notre place avec les hommes. Et puis là, ici, je l'ai mis, j'ai un peu anticipé, mais c'est toute la communion qui peut se faire dans les épreuves, dans la souffrance aussi. Comment un couple va traverser tout cela dans une belle communion d'amour et comment ça peut porter du fruit, une belle fécondité. Voilà. Alors... Ça, c'est le résumé. Alors, après, nous avons vu quand même un petit peu comment la femme devait d'abord, pour se réconcilier, donc se retrouver comme fille du père, puisque psychologiquement, c'est le père qui aide l'enfant à devenir adulte. Et s'il manque à sa mission, eh bien, la femme restera ou une petite adolescente révoltée, ou bien quelqu'un d'écrasé, de soumis, et qui ne sera jamais un véritable vis-à-vis de l'homme. Donc, il y a toutes des guérisons à recevoir. Et on a vu qu'en se mettant sous le regard du Père, eh bien nous allons recevoir ces guérisons qu'il y a toujours, j'aime bien l'expression, tu es un peu scolaire, mais des séances de rattrapage avec le bon Dieu, et j'ai donné quelques témoignages là-dessus. Et nous sommes arrivés à deux filles, et eh bien maintenant, comment devenir épouse? Comment la femme va devenir épouse? Et on a dit déjà des choses là-dessus, mais je ne me souviens plus trop ce qu'on a dit. Ah oui, que l'essence de la femme, c'était la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ignoré chez la femme. On est toutes très complexées alors qu'on est très belles. Est-ce que vous vous sentez belle? Ah, bravo. Parce qu'on est les chefs-d'œuvre de la création, on n'y peut rien. C'est Dieu qui a voulu faire de nous, on est né en dernier, chef-d'œuvre de la création. Alors regarde, on l'accepte chez Marie, parce qu'on sait qu'elle elle est... Voilà. Et bien c'est justement en Marie que nous allons pouvoir oser croire que nous sommes belles, et que ça ne dépend pas des traits de notre physique, mais de ce qui va émaner de nous, justement, dans le don de soi, dans l'amour donné, reçu et donné, on va devenir de plus en plus belles. Et voilà, alors j'ai parlé de ça la fois dernière, qu'il fallait décliner cette beauté de plein de manières différentes. Et on va en venir maintenant, si vous voulez, aux traits distinctifs de l'homme et de la femme. Alors je n'y passe pas trop de temps parce qu'il y a plein de choses qui sont écrites là-dessus. N'empêche que beaucoup de gens, n'ayant pas compris cette différence homme-femme, les femmes disent... moi, je n'ai pas 4 enfants, j'en ai 5. Donc elles prennent toujours leur mari comme un enfant. Parce qu'il ne prend pas ses responsabilités, parce qu'il n'est pas comme nous, il n'est pas conditionné, il n'est pas façonné, il n'est pas configuré, Dieu n'a pas configuré l'homme comme la femme. Et la femme, elle attend tout le temps qu'il soit comme elle, et donc elle a des tas d'attitudes et des réactions qui bloquent l'homme, qui fait que l'homme il dit, ben moi je ne peux pas, je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle veut, et puis... Voilà. Et du coup, ben, au bout d'un moment, il prend la tangente, il va sur Internet, ou il va dans l'alcool, ou il fuit dans son travail, ou dans un sport favori, et il dit, de toute façon, je ne pourrai jamais la combler. Parce que nous attendons des choses qu'ils ne peuvent pas donner. Donc, c'est intéressant quand même de regarder ces traits distinctifs de l'homme et de la femme. Bon, alors moi, je m'appuie là-dessus pour vous dire quelques petites choses. Hein. On survole hein, tous ces sujets-là, mais c'est pour vous donner envie de les approfondir. Edith Stein a travaillé des années et des années sur ce thème de la vocation de la femme, et elle, c'est très intéressant, elle est partie des phénomènes qu'elle a observés, hein, elle a regardé, Voilà. Comme elle était très intelligente, elle a pu en tirer des leçons, des choses. Et alors, je m'appuie donc sur ses études qu'elle a faites et qui étaient d'avant-garde à son époque. Edith Stein, vous connaissez tous. Oui. Bon, une juive allemande qui s'est convertie, qui est devenue carmélite. Son nom de carmélite, c'est Thérèse Bénédicte de la Croix. Alors, donc, elle s'est posé la question de savoir s'il y a une essence de la femme, une âme de la femme différente de l'homme. Et elle invite à ce moment-là à regarder la spécificité corps et âme en se basant sur l'expérience, comme je vous dis, sur des phénomènes qu'elle a observés. Alors, elle en conclut, alors moi je vous donne la conclusion, je ne vais pas vous donner tout son déroulé de truc, mais la conclusion, c'est que le corps différent de la femme, de l'homme, renvoie à une âme différente. C'est une âme, c'est l'âme qui anime le corps. Voilà. Et il y a une âme différente pour la femme et pour l'homme. De là, la psychologie a mis en valeur deux traits distinctifs de l'homme et de la femme. L'homme est axé sur ce qui est objectif. L'objectif, la rationalité, il y a tout un tas de choses, on pourrait prendre d'adjectifs, mais bon, ce n'est pas le but ici, mais pour présenter l'homme, mais on peut retenir qu'il est davantage axé sur ce qui est objectif. Et il est tout naturel pour lui d'investir dans toute son énergie dans un domaine d'objets, par exemple l'apiculture, ou encore les maths, ou encore etc. Bon. Et ça peut. Voilà, il va se soumettre également aux lois de cet objet, de cette science-là. Il va bien se soumettre très facilement. Voilà. Alors ça c'est bien, c'est pour l'homme. Et pour la femme, eh bien, elle dit que la femme est axée sur la sphère personnelle, avant tout. Sur la sphère personnelle. Donc, la femme, elle va être marquée très fortement par l'événement de la maternité, même si elle ne donne pas physiquement naissance à des enfants, elle est profondément marquée par ça, l'événement de la maternité qui fait qu'elle va nourrir un enfant, qu'elle va l'élever, qu'elle va... Voilà, ça va lui donner un caractère spécifique, la maternité. Et nous sommes toutes profondément marquées par ça. Et il faut le faire valoriser, il faut le faire valoir, il faut pas en avoir peur, parce que dans le premier jour, j'ai bien parlé de tout ça, on va vouloir nous effacer tout ce côté de la maternité chez la femme, ce n'est qu'une fonction biologique, mais si on peut la remplacer par un utérus artificiel, on n'hésitera pas pour que la femme soit libérée de la maternité. Or, ça nous constitue, ça nous définit, et faut pas en avoir honte. C'est vraiment, au contraire, quelque chose de très très beau que Dieu nous a donné. Mais on va y revenir. Alors, donc du coup, la femme, elle va aimer à associer toute sa personne à ce qu'elle fait. Elle va s'intéresser particulièrement à la personne vivante et concrète, c'est-à-dire tant à sa vie personnelle qu'aux autres personnes et à leurs affaires personnelles. Alors, on va essayer de tirer deux conséquences de ce que je viens de dire là. L'homme, donc plus axé sur ce qui est objectif, lui, il aura tendance donc à se développer d'une manière unilatérale. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il ait un vis-à-vis féminin, que ce soit au travail, dans l'église ou dans une vie de couple, pour pouvoir sortir de cette unilatéralité et ne pas s'en contenter, ne pas rester à un plan matériel, mais voir que, et mon mari me dit souvent, mais vraiment, tu m'as ouvert à tout un tas de choses. C'est pas du tout la même sensibilité. Au début, ça nous choque. Je disais l'autre jour, quand on se retrouve dans un repas et puis qu'il y a quelqu'un qui a pleuré, une femme a pleuré, par exemple, dans un repas, on est une dizaine, puis quelqu'un a pleuré. Après, je lui dis, t'as vu ? Elle a pleuré. Mais voilà, je veux dire, tu as remarqué tout ça. Ah ben non, j'ai rien vu du tout. Et alors ça, c'était il y a quelques années. Et puis maintenant, mon mari, je me dis, c'est incroyable, parce que le fait de vivre avec une femme, ça l'a ouvert à toute cette attention aux autres. Lui, il est bouleversé, il me dit toujours, mais la manière dont tu regardes les gens, Béatrice. Et lui, il est fasciné par ça, parce qu'il n'avait pas cette attention-là, il n'était pas formaté comme ça, il n'avait pas cette facilité que Dieu nous a donnée à nous, de s'intéresser à la personne. Et maintenant, petit à petit, c'est un homme qui excelle dans la relation à l'autre. Alors qu'il fuyait au départ de mon mariage, et il partait dès qu'il y avait du monde, il fallait qu'il parte, il était tourné dans son monde à lui. Donc nous, hommes et femmes, ensemble, voilà, on va s'équilibrer, on va recevoir les uns des autres. Alors, donc la femme, ça va lui donner par contre, dans ce que j'ai dit là, qu'elle est axée sur la sphère personnelle, elle aura une propension à la complétude. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à être un être complet et à s'épanouir, elle cherchera à s'épanouir dans tous les domaines. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de dire, bon, on est dans notre, voilà, on est prof d'histoire, on va rester dans l'histoire. Non, on va s'intéresser à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Hein, c'est naturel pour nous. Et donc c'est une richesse. Mais alors il y a des dangers quand même. Alors moi à une époque j'avais beaucoup de complexes dans mon écriture. J'ai une écriture très rare pour une femme, vraiment très pas belle du tout. Et je sais pas, ça part un peu dans tous les sens. Et alors tout le temps on m'en faisait le reproche. Et alors ma marraine qui était une grande femme à Paris et tout ça, nous on était des petites provinciales, mais chaque fois elle me faisait des remarques et qu'il fallait que je travaille ça, que c'était pas possible d'avoir une pareille écriture. Au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai dit, bon moi je vais pas rester toute la vie avec ce complexe que j'ai, voilà, que je dois être quelque part déséquilibrée ou j'en sais rien, enfin j'ai imaginé plein de choses. Et puis j'ai fait faire mon analyse d'écriture. Alors, je ne vais pas vous en donner le résultat, ça ne vous intéresserait pas. Moi, ça m'a réconforté beaucoup. Mais on disait à la fin, ce qui m'a, je retiens pour cet enseignement-là ici, mais on disait, on sent la scriptrice désireuse de s'épanouir dans tous les domaines. Qu'elle se détende davantage, elle y arrivera. J'étais assez stressée, Donc j'avais besoin de beaucoup de détente, ce que m'a donné la prière, toute la vie spirituelle. Là, j'avais 30 ans quand j'avais fait faire cette analyse d'écriture. Mais voilà, on la sent désireuse de s'épanouir dans tous les domaines. Hein, nous, il faudrait peut-être éteindre nos portables tous. Parce que, hein, voilà, voilà. Alors, quels sont les dangers de cette caractéristique de la propension à la complétude ? Ce désir qui est beau de vouloir s'intéresser à toutes les choses, à tous les... Alors, il y aura deux dangers. La femme aura la fâcheuse tendance, le penchant de faire valoir sa personne. C'est-à-dire de s'occuper d'elle-même, de son moi, et puis d'occuper autrui autour de son moi. Alors, on parle beaucoup de nous, on raconte beaucoup toutes nos émotions, nos choses, etc. Bon, donc, voilà, trouver juste milieu. Et d'une part, elle éprouve le besoin irrésistible d'être aimée et admirée. Et puis d'autre part, on n'est pas capable de supporter la critique. Ben, dès qu'on nous critique, oulala, ça fait une révolution en nous. On ne supporte pas bien la critique, les femmes. Les hommes, beaucoup plus. Hein, parce qu'ils ne sont pas orientés vers leur sphère personnelle, beaucoup moins que nous. Et voilà. Et je me souviens aussi, là encore, quand on disait à un moment donné du mal de mon mari, parce qu'il était dans des actions politiques et tout ça, et que j'entendais tout ce qu'il se disait dans le village, la petite ville sur mon mari, moi, je revenais, j'étais complètement outrée, parce que ça concernait ma famille, quoi, hein, mon mari. Et puis mon mari me disait, mais laisse dire, fais bien et laisse dire. Et ça ne le choquait pas du tout. Pourtant, c'était vraiment des attaques personnelles sur lui. Et il avait cette réceptivité, voilà, avec tout à fait différente d'une femme. Alors, à ce désir ardent de faire valoir sa personne, va s'ajouter son intérêt excessif pour autrui. C'est-à-dire, elle va vouloir s'immiscer d'une manière déplacée dans la vie personnelle d'autrui. Un besoin irrésistible de s'accaparer les êtres. Hein ? Moi, j'ai dû subir une belle-mère très possessive pendant tout le temps de mes fiançailles. Ça m'a fait perdre mon sourire. On a dit, mais Béatrice, elle n'est pas heureuse de son fiancé. Pourtant, c'était extraordinaire. J'étais vraiment sûre que c'était lui et j'ai jamais douté un instant que le Seigneur me le donnait. Mais ma belle-mère a tout fait parce qu'elle n'a pas supporté que son fils lui soit enlevé, arraché. Elle a fait ça pour ses autres fils. Elle a fait, et elle, jusqu'au la veille de mon mariage, elle a essayé de détourner et de dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, tout est prêt pour que le mariage soit annulé. Et elle avait organisé le mariage d'un autre de ses fils la veille de mon mariage, pour que les gens qui fassent le voyage, puisqu'on est du Nord, et que ça se passait dans le Midi, puissent repartir en ayant déjà quand même eu un peu d'un bon repas de noces. Et donc, il pouvait se passer du deuxième. Voilà. Alors ça, c'est voilà, les gens très possessifs. Hein, qu'est-ce qu'on souffre ? Et les mères, quand même, les femmes, on a beaucoup, beaucoup de peine à lâcher nos enfants. Au bout d'un moment, nos enfants, le Seigneur nous demande d'être un relais dans leur vie. Et c'est magnifique. On a transmis la vie, on leur a donné des codes de conduite, des empreintes qui vont les marquer de manière indélébile jusqu'à la fin de leur vie. Mais lâchons-les. Après, ils doivent vivre leur vie. Il faut absolument que le père... Parce qu'il y a quelques hommes, que le père aide l'enfant à se détacher de sa mère, hein, sinon ça ne va pas du tout. Et moi, heureusement, c'est mon père qui a aidé mon mari à se détacher de sa mère, quoi, en lui disant, tu dois envers et contre tout préserver cet amour, et si vraiment elle fait trop de menaces et que ça te déstabilise trop, il faut couper avec ta mère pour un temps. Voilà. Et bon, voilà. Alors, donc attention aux belles-mères ou aux mères possessives, hein, on a tous un petit peu toute cette tendance quand même à s'occuper un peu trop et vouloir être au courant de tout dans tous les domaines aussi, hein. Du coup, c'est le risque du touche-à-tout. Alors, on veut tout savoir, on veut tout machiner, voilà. Mais on reste à un niveau superficiel, alors qu'à des moments, nous, il faudrait que, ben voilà, on creuse un sujet et qu'on ne cherche pas à tout savoir, tout, voilà. Donc, attention au risque de superficialité. Alors, une chose importante encore dans la femme épouse, c'est que la femme doit prendre conscience qu'elle doit laisser à l'homme sa place. Et elle doit rendre à l'homme sa vocation de pasteur. De pasteur, et je dirais de décideur, quelque part. Hein, je ne veux pas mettre le mot chef, parce que s'il y a des hommes machistes et tout ça, évidemment, là, il faut au contraire se protéger et se faire respecter au maximum tous les manipulateurs, toutes ces configurations d'hommes. Là, il faut au contraire se faire respecter dans notre dignité. Mais pour les autres, c'est... Alors, il y a ce cas de figure-là qui existe très fort, mais il y a très souvent aussi, surtout dans les jeunes générations maintenant, des hommes qui n'osent plus prendre leur place. Et moi, j'ai des confidences de certains hommes, et dans les retraites, non pas pour femmes, mais là, quand je parle des fois à des femmes et à des hommes après, et qui viennent me dire, vraiment, c'est ça, on ne sait plus quoi, qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces femmes? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Elles ont tout, elles ont une belle situation, elles sont intelligentes, elles gèrent leur vie... Et on ne sait plus quoi leur apporter. Et ces hommes, 30-35 ans, ont une peine folle à oser franchir le pas, l'audace d'aller conquérir la belle, de s'engager dans un lien, dans le mariage, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir leur apporter quelque chose. Donc nous, femmes, nous devons trouver notre positionnement pour être nous-mêmes, mais aussi ne pas leur laisser leur place et découvrir aussi ce que Dieu, parce que Dieu leur donne des choses spécifiques aux hommes qui ne sont pas données à la femme. Entre autres, des lumières. Il faut que nous osions croire que nous sommes très intuitives. Alors, avec notre féminité, on va souvent plus vite que l'homme. Et il y a un problème qui survient, et ça y est, nous, il faut faire comme ça, et l'homme, il n'a rien le temps de dire, il regarde le train passer, etc. Bon. Et après, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est toujours moi qui fais les choses, c'est moi qui interviens, c'est moi qui... Voilà. Mais est-ce qu'on lui laisse le temps? Est-ce qu'on lui laisse de la place? Est-ce que nous croyons, c'est plutôt ça, profondément, que Dieu lui donne des lumières spécifiques parce qu'il est homme et qu'il est chef de la famille et que le Seigneur lui donne d'être gardien de la loi il doit présider dans la famille, il doit reprendre son rôle pour trancher. Et on a besoin de l'homme pour trancher quand il y a des problèmes, quand il y a des discussions, quand il y a des... voilà, qu'on est dans le flou. Alors, voilà, eh bien, l'homme, à des moments, il doit trancher. Et moi, j'attendais vraiment ça. Et mon mari, petit à petit, a pris cette place, mais il a fallu lui la laisser parce qu'il n'avait... il n'a pas eu de père, enfin, où son père était complètement absent, hein, avec sa maman très possessive, qui dirigeait absolument tout. Et lui, très très absent, donc il est parti faire de la voile. Alors, sur un bateau à voile, tout le temps, il était en mer, vous voyez, il fuyait. Lui, ça n'a pas été l'alcool, heureusement, ni les femmes, mais le bateau, hein, et pour fuir cette femme qui dirigeait tout, qui faisait tout. Et moi, il a fallu que j'ai beaucoup gaffé, hein, certainement, les premières années, et je montrais toujours à mon mari qu'il n'était pas responsable, qu'il ne prenait pas sa place d'homme, et moi, j'avais eu un père très, très mal, très viril, qui avait de l'autorité, et je voyais bien que le bas blessait. Et à des moments, alors quand je lui disais des choses sans délicatesse, il me disait, mais tu sais, j'ai envie de partir à l'autre bout de la terre, Béatrice, hein, quand tu me dis ça. Et j'ai compris que je ne pouvais pas le prendre frontalement, en lui montrant tout ce qui n'allait pas, et qu'il fallait simplement que moi, j'ai un regard d'espérance sur lui, que moi, je crois en lui. Et petit à petit, vous voyez, ce regard de prophète que la femme doit avoir aussi, hein, croire, avoir de l'espérance, un regard positif, en se disant, si cet homme, il peut avoir de l'autorité, cette autorité, elle va venir. Et l'encourager chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, qu'il a été pour les enfants un vrai pasteur, un vrai berger, eh bien, le mettre en valeur et lui donner tout doucement confiance. Et petit à petit, il a vraiment pris confiance en lui, et je vois bien que je pouvais tout à fait, si je ne m'étais pas convertie, si je n'avais pas eu moi aussi la reconnaissance de mon propre péché à part hellemonial, j'aurais pu l'écraser complètement et ça aurait été un homme qui serait resté dans ses abeilles toute sa vie, mais qui n'aurait pas pu prendre sa paternité, vous voyez, épanouir sa paternité. Voilà, donc, alors la femme, donc, dans les petits choix de la vie de tous les jours, vous voyez, comment, avec un patron, avec un collègue, avec un mari, voir comment leur laisser la place, puisque nous sommes physiquement marqués par cette capacité de recevoir, il est bon dans notre psychologie que nous permettions à l'homme de nous apporter quelque chose. Il faut que nous reconnaissions que nous avons une certaine fragilité, nous les femmes. On a beaucoup de qualités, depuis le début de ces carrefours, j'ai dit ces qualités de la femme. Et en même temps, on a de la résistance, c'est vrai, même physique, puisque le Seigneur nous a donné cela, Edith Stein le disait aussi, c'est vraiment une capacité d'endurer pour être mère, pour assumer les soins des enfants. On a une grande résistance en nous. Et en même temps, nos sentiments sont très fluctuants. Et on a besoin de cette force tranquille de l'homme à nos côtés, au moment où nous, à l'image de nos variations hormonales, voilà, ça va être la tempête intérieure, ça va être, souvent mon mari me dit, attends, calmons le jeu, on va se reprendre, et on a besoin, vous voyez, que des hommes, c'est peut-être des pères spirituels, si on n'a pas d'époux, qui vont nous dire, qui vont nous simplifier et nous ramener, voilà, par rapport à tous ces... cette fragilité que nous pouvons avoir, eh bien, nous avons besoin d'eux aussi pour nous cadrer un peu. Nous avons besoin d'une protection. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Il faut se le dire, ça. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin de l'homme, de sa force protectrice. Regardons ici, voilà, de sa force protectrice, de son aide. Voilà. Voilà, avoir conscience, voyez, que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ça nous aide à être plus humbles. Un autre sujet que je voudrais dire, c'est que la femme, c'est dans le même prolongement, la femme a fondamentalement de la peine à obéir. Alors quand on le dit qu'il faut qu'elle obéisse à l'homme, femme, soyez soumise à vos maris, ça c'est quelque chose, on aborde sur la pointe des pieds, je me dis, elles vont me tomber dessus, les femmes. Alors je vais vous dire comment je le ressens, mais la femme a fondamentalement de la peine à obéir parce que notre intelligence est plus subtile, parce qu'on a des perceptions de lumière qui peuvent être assez affinées. On a une capacité donc de discerner, je disais, de juger, de comprendre, capacité de lumière aussi. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait comme le sacrifice d'Isaac, vous savez. Il va falloir remettre ça. À des moments, il faut lâcher ces lumières. Il faut les remettre pour laisser notre lumière être relativisée par une force d'adhésion à l'homme. Vous voyez, l'homme, il a des lumières qui lui sont données par Dieu. Et il va falloir que nous permettions à l'homme d'aller jusqu'au bout des lumières qu'il reçoit. Avec notre délicatesse, notre finesse, on peut faire exactement l'inverse. Avec notre intuition, etc., notre féminité, on peut écraser l'homme et sans arrêt, c'est nos lumières à nous qui vont passer. Eh bien, non, utilisons au contraire toute cette finesse que nous avons pour lui voyez, le faire passer devant, lui demander de... Vas-y, ben, dis-moi, pour ces vacances-là, est-ce que tu pourrais me dire... Parce que souvent, les femmes me disent, ben, c'est toujours moi, depuis des années, toujours moi qui ai décidé des vacances. Il y a plein de femmes qui disent ça. Et oui, parce que l'homme, il est occupé à son travail, il a d'autres soucis. Ça ne lui vient pas naturellement. Nous, on anticipe tout le temps. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, etc. Alors là, eh bien, sachons nous arrêter, prier peut-être avant, et puis le questionner, lui disant, eh bien, chérie, est-ce que tu peux réfléchir à ça? Mais réfléchir, parce que lui, il ne va pas le sortir spontanément. Nous, ça sort comme ça. Lui, il va lui falloir du temps. Alors, lui dire, est-ce que tu peux réfléchir? Et puis, dans 8 jours, on en reparle. Qu'est-ce que tu penses qui serait bien cette année qu'on fasse? Voilà. Le laisser aussi décider, lui laisser avoir des lumières. Et puis prier pendant ce temps-là. Puis après, lui demander un peu son avis. Et nous, eh bien, être à l'écoute et puis ajuster et peut-être l'aider en lui disant, non mais ça, tu vois, là, tu nous proposes d'aller sur la Lune. Il me semble que c'est un peu loin et que ça va coûter très cher. Alors peut-être que c'est peut-être pas ajusté, ça. Voilà. Mais vous voyez, pensez vraiment. Et c'est important pour nous aujourd'hui, la femme. La femme décide de tout, elle fait tout, elle conduit sa barque, et tout le monde en pâtit. Donc ce n'est pas à la femme d'avoir des lumières, mais c'est à la femme de mûrir la lumière que reçoit l'homme. Hein, la femme est face à l'homme et l'homme est face à Dieu. Femme, soyez soumise à vos maris, c'est ça que ça veut dire. Donc permettre, je répète, permettre à la lumière qui est confiée à l'homme d'aller jusqu'au bout. C'est à la femme de mûrir cette lumière, voilà, confiée à l'homme par son adhésion. Hein, et en cela, si elle fait cela, eh bien, elle va permettre à l'homme d'exercer sa royauté. Il va retrouver sa place, l'homme. Hein, par son humilité de servante, elle va permettre à l'homme de retrouver sa place de roi, hein, de sa royauté. Et elle, elle sera reine, ne vous inquiétez pas. On ne va pas être bobonne et tout ça à côté. Non, on va être reine, nous aussi. Hein, on va être aide de l'homme, ce que disait le premier jour. Hein, aide, Ézer, aide de l'homme. C'est-à-dire d'être une compagne à ses côtés, qui va lui permettre à l'homme de faire sortir tout ce qu'il y a de meilleur en lui. Et voilà. Donc la femme produit de la lumière, oui, mais à partir de son humilité. Et au creux de cette humilité, de cette soumission, la lumière de l'homme mûrit. Je vous en supplie, méditez là-dessus, chacune, parce qu'on a tout un travail à faire, ce n'est pas évident pour nous. Voilà. Et sans cette aide, sans cette vraie place que la femme va prendre, d'être Ézer, d'être l'aide, eh bien l'homme peut se débrouiller tout seul, oui, mais ce sera toujours bancal. Hein. Intérieurement, il lui manque quelque chose. Il lui manque l'intériorité du cœur. Oui, tu veux que je réponde?
Oui,
oui. Oui, voilà. Donc la femme est reine. Elle produit de la lumière à partir de son humilité. Et au creux de cette soumission, la lumière de l'homme mûrit. Je pense à mon mari qui, à un moment donné, donc, quand il n'a pas pu choisir son métier. C'est mon père qui avait de l'autorité, qui lui a dit, oh là là, mais tu as 27 ans, tu reviens d'Algérie, etc. Il faut que tu bosses. Lui, il voulait reprendre des études. Et il lui a dit, non, allez, tu vas être agent d'assurance. J'ai fait ça pendant la guerre, c'est très bien. Tu achètes un portefeuille d'assurance et puis voilà, ça sera très bien. Et tu ramèneras, c'est pas un boulot qui est passionnant, mais tu ramèneras du pain sur la table, etc. à ta femme. Et lui, il voulait la fille, donc il a accepté d'obéir au beau-père. Et un peu soumis, là, pas une bonne soumission peut-être, mais il a accepté ça. Mais je le voyais très malheureux, très très malheureux dans ce métier. Et au bout d'un moment, il a essayé voilà, de vivre à la campagne, donc justement partir d'une ville pour aller vivre complètement perdu dans la campagne. C'était un contemplatif et j'ai vraiment senti que ça lui coûtait trop d'être en ville. Et moi, ça me coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quitter la ville. Et ça a été, vous voyez, tout un ajustement entre nous deux. Et il a voulu vivre d'un métier de ses mains. Et il m'a dit, tu vois, je ne suis pas construit, je n'ai pas confiance en moi. Lui, il avait les blessures inverses de moi. Lui, sa mère avait voulu une fille. Alors avec ses projections très, très fortes, elle. Donc ça la configurait aussi. Il a joué le rôle de fille aussi quand il était tout petit. Il avait le premier prix de tricot. Bon, alors vous voyez, nos blessures inversées. Donc il voulait vivre d'un métier de ses mains. Et il s'est mis, on a acheté une ruine, et il s'est mis à reconstruire cette maison. Et je voyais cet homme, donc ça a passé des... Alors mon père disait, enfin, pourquoi tu ne mets pas, tu fais pas un prêt, puis tu fais faire les travaux, puis voilà, vous aurez une belle maison. Et mon mari, non, il voulait tout faire de ses mains, parce qu'il savait qu'il allait se reconstruire comme ça, vous voyez. Et ça, c'est important d'être à l'écoute aussi de quoi... Cet homme a besoin pour aussi retrouver sa virilité, sa masculinité, sa place d'homme aussi dans le monde. Et donc, il s'est beaucoup épanoui à faire ses travaux. Ça a duré 20 ans. Alors, moi, j'étais son petit maçon. voilà. Mais après, donc, il a fait ça, c'est ça. Et alors, après, il m'a demandé de vivre des abeilles. C'était une folie. C'était une aventure complète parce qu'il n'avait jamais été apiculteur, jamais fait de stage. Et voilà, t'y pas qu'on démarre avec 15 ruches et qu'il abandonne son assurance pour les assurances pour acheter des ruches et faire de l'apiculture. Passionné tout de suite par ce travail. Et là, je dis, vous voyez, c'est l'esprit d'aventure que les hommes peuvent avoir en eux. Eh bien, je suis absolument sûre que cet homme, si je ne lui avais pas permis d'exercer un métier passionnant comme ça, dans la nature, où tout ça... Il était très contemplatif, Yves. Et tout ça, la contemplation... Je n'aurais pas l'homme que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde le trouve formidable, mais je me dis, Au début, les femmes, elles ne le trouvaient pas formidable. Hein. Personne n'en voulait. Il me disait, je fais fuir les filles. Voilà. Mais voilà. Donc, je me dis, il y a tout un travail, vous voyez, de communion, de complémentarité, d'accueil de ce qu'est l'autre, et laisser le temps à l'autre aussi de devenir ce qu'il est. Respecter l'homme dans ses aspirations humaines. Un tout petit truc, c'est aussi, voilà. Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam ? À quoi l'homme sert-il ? Hein, si on sait à quoi est destiné un objet, eh bien, nous connaissons du même coup sa raison d'être. Alors Adam et ses fils, ils ont été investis d'une mission incroyable, dominer, soumettre, être fécond et multiplier. La terre est devant toi, Adam, vas-y. Voilà. Et les hommes donc sont sur la terre, non pas pour tuer le temps, mais le secret désir de leur cœur, je crois que c'est dit par des hommes qui ont travaillé beaucoup la question, c'est de concevoir, c'est d'explorer, c'est de construire, c'est de conquérir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et si dans leur métier, ils ne peuvent pas épanouir cela, il faut qu'ils le cherchent ailleurs. Il faut leur permettre de le vivre ailleurs, en dehors. Hein ? Mon mari aurait pu peut-être rester dans les assurances, mais avoir cette passion des abeilles peut-être à côté, je ne sais pas. Voyez ? Et alors, voilà, il faut là aussi... et aider les hommes à réveiller ces désirs d'aventure de leur cœur, et puis pourquoi pas des fois se lancer dans l'aventure avec eux. Hein. Il y a des fois des hommes qui ont demandé à leur mari de faire le tour de la terre, et avec tous leurs enfants, et on en voit plein qui ont fait des expéditions comme ça, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples. Hein. Mais ne soyons pas des éteignoirs, voyez, éteindre toutes leurs aspirations. Une amie me raconte l'autre jour, une sœur de communauté que j'accompagne. Elle me dit, oh là là, je dis, ça s'est bien passé vos vacances ? Oh là là, affreux ma pauvre Béatrice, c'est affreux. Bon, on est revenu en pétard l'un avec l'autre, ça va pas du tout, etc. Puis j'essaie de questionner, comprendre ce qui s'était passé. Et elle me raconte, voilà, bon, mon mari, alors, il voulait qu'on aille sur, à Noirmoutier, sur une petite île en Bretagne. Et parce qu'on avait vécu ça, quelque chose de fort au début de notre vie de couple. Alors il y avait ce projet-là. Et elle, elle trouvait que ça coûtait cher, que c'était ci, que c'était là, enfin bref, et elle n'a pas voulu. Et elle s'est opposée. Et puis un jour, un matin, il se lève et il dit, allez, toute la famille, en route, en voiture, je vous emmène à Noirmoutier. C'était à l'Île-Dieu, pardon. Noirmoutier, c'est une ville, justement, à l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, qui était donc une petite île, à 75 km de là, à peu près. Et alors elle fait une tête de 6 pieds de long, furieuse de cette proposition. Mais tu as pas vu le temps est complètement incertain. Et puis j'ai rien pour préparer mon pique-nique. Et puis etc. Elle commence à râler. Et lui il tient bon. Et allez en route les enfants, on monte en voiture etc. Donc elle prépare vite fait son pique-nique. Et alors elle fait une telle tronche dans la tronche, ça veut dire une telle tête dans la voiture. Arrivé à un croisement où il y avait l'Île-Dieu d'un côté et Noirmoutier qui est une ville sur la terre de l'autre côté, eh ben, ça y est, il a donné un coup de volant et il a renoncé à sa destination de l'Île-Dieu. Parce qu'en disant s'il faut que je supporte, hein, et nous on est formidables pour ça, hein, pour faire montrer qu'on n'est pas content et on est insupportable. Hein. Et pour l'homme, je ne sais plus quoi faire. Hein. Il voit cette bûche là qui est là et qui toute la journée va. Alors bon, bah plutôt que d'avoir cette tête-là, alors voilà, il a renoncé. Et puis le soir, il lui vient, un sursaut d'appel, à nouveau à une aventure, et il lui propose de prendre le gué, le gois, qu'on appelle comme ça, nous. Donc, je ne suis pas bretonne, alors je crois que c'est prendre un chemin près de la mer, mais ce chemin peut être submergé des fois par la marée, hein. Alors, et la femme à nouveau dit « Ah, mais tu vois pas à l'heure qu'il est, c'est pas prudent du tout, etc. etc. » Et elle veut pas, elle refuse encore. Et depuis ce moment-là, il est rentré, tête de 6 pieds de long, et c'est fini. Lui, il a abdiqué, mais les vacances, c'est tout comme ça, sans arrêt, il faut lui obéir, il faut le machiner, on peut jamais rien faire. Vous voyez ? Et alors, elle me dit, ils avaient prévu, normalement, ils avaient avant les vacances, un petit week-end tous les deux. Je dis « Alors, votre petit week-end, vous l'avez pris en septembre ?» Elle me dit « Oh non, on n'en a pas du tout envie, ni lui, ni moi d'ailleurs. On n'a plus envie de se retrouver en couple. » Voilà. Ben vous voyez, des trucs comme ça, après, ça nous paralyse complètement dans notre vie de couple. Hein, et on ne sait pas pourquoi, ça ne va plus, ça ne passe plus, le dialogue ne passe plus, l'amour n'est plus là, plus de créativité. Parce que l'homme, ça y est, il a rentré en lui tous ses désirs, toutes ses aspirations, cet appel sauvage qu'il avait en lui, voilà, est complètement éteint. Et après, bah, alors elle se plaint, après elle me dit, oh bah oui, elle me dit, mais alors le matin, tu sais, il est élevé à 5h du matin, il reste jusqu'à 9h à son boulot, je le vois plus, s'occupe plus des enfants, etc. Je dis, ben bah, oui, mais peut-être qu'il faudrait que tu lises le livre Indomptable. parce que alors c'est un livre qui est à la librairie, j'ai vu qu'il n'a pas beaucoup été acheté, mais lisez ce livre, ça va vous faire comprendre toutes ces aspirations de l'homme et voir combien nous les femmes on ne connaît pas l'homme et on passe à côté et vraiment toute cette belle complémentarité qui pouvait être féconde, qui pouvait vraiment nous laisser dans une joie, une créativité de nos vies, eh bien non, c'est, voilà, on éteint tout ça petit à petit et les hommes ne sont pas épanouis et les femmes sont déçues. Et cette femme, quand je lui ai fait observer ce qu'elle était en train de vivre et de faire vivre à son mari, d'un seul coup, ça y est, un sursaut, et elle me dit, Béatrice, ça y est, j'ai compris. Je veux... comment elle m'a dit ça? Parce que je l'ai noté, parce qu'elle m'a permis de donner son témoignage. Je lui demande sans cesse d'être comme moi, de réagir comme une femme. Je lui demande sans cesse d'être comme moi et de réagir comme une femme. Voilà. Alors, je pense qu'en lisant ce livre Indomptable, il s'est passé des choses et elle a compris hein, qu'il y avait une place qu'elle devait laisser à l'homme. Voilà, respecter cet appel sauvage. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre... Donc, en conclusion de cette vocation de l'épouse, voyez qu'elle est très très riche de complémentarité. Voilà, la femme a vraiment un rôle exaltant, un rôle capital à jouer, non pas pour écraser l'homme, hein, pour le dominer, pour lui dire qu'il doit faire, mais comme un nouvel enfantement. Vous voyez, elle a enfanté l'homme à nouveau, voyez, pour faire de lui un homme nouveau, un homme qui va aller vers ce vers à quoi Dieu le destine, hein, pour une élévation hein, de toute l'humanité. Alors, on va prendre maintenant donc d'épouse. Eh bien, il n'y a pas d'épousailles, de maternité sans épousailles. Nous allons regarder maintenant, si vous voulez bien, la femme épouse. Je suis désolée parce que j'ai terminé pour les hommes. J'ai dit des belles choses sur les hommes. Tu aurais été content, hein? Alors, un monde où la femme est absente est un monde sans Dieu, car il est sans mère et Dieu ne peut y naître. C'est Maurice Zindel qui dit ça. Alors, vous aurez toutes ces citations. Je vous ai préparé des petites feuilles où vous aurez les citations principales que je donne dans l'enseignement. Hein, ça vous évite d'être frustré et de vous dire j'ai perdu cette citation. Voilà. Alors, c'est-à-dire c'est en étant pleinement épouse que la femme devient pleinement mère. Hein. Pas de maternité sans épousailles, sans union dans le don de soi et l'accueil de l'autre. Donc la femme est faite pour être mère dans son corps, dans son âme, dans son psychisme. Tout en elle est fait pour ça, pour être le réceptacle de la vie, le berceau de la vie. Elle a la grande mission d'être le terreau de la vie. C'est en elle que va passer de génération en génération le relais de la vie humaine. Quelle belle vocation quand même. C'est en nous que se passe le relais de la vie humaine. Si, voilà, c'est par la femme depuis des milliers d'années. Quel grand mystère. Donc, fille de Dieu, nous sommes fille de Dieu, épouse et épouse du Christ, on l'a vu aussi, et mère de l'humanité. Donc, d'une maternité qui va dépasser celle de la chair, constitutive de notre être profond. Donc, être mère est un charisme offert à toute femme. Hein, dites-vous, si vous n'avez pas enfanté, donné la vie, ça n'a pas d'importance, je dirais, c'est pas ça d'importance, mais vous pouvez complètement épanouir votre maternité. Voilà, justement, maternité. Alors, ce mot de materner, il a besoin d'être réhabilité. Parce que dans notre monde aujourd'hui, attention, vous savez, il y a tout un problème au niveau de la sémantique, c'est-à-dire que on va changer les mots, la signification des mots tout doucement, et puis on fait passer comme ça tout un tas de théories. Et le mot materner est exclu du langage actuellement. Hein. On dit, si vous êtes infirmière, il ne faut pas materner vos malades. Si vous êtes professeur, il ne faut pas materner vos élèves. Hein. Si vous êtes assistante sociale, surtout pas de maternage. Hein, pas de maternage. Vous êtes là, vous mettez de la distance dans la avec la personne qui est là. Alors, bon, je comprends bien que c'est important d'avoir de la distance, de ne pas se projeter, de ne pas pouputer les gens, de ne pas les posséder, avoir, vous voyez, un côté comme l'assistance et tout ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est en nous ça, de pouvoir materner, c'est-à-dire d'offrir notre temps, nos oreilles, notre cœur, notre écoute, tout cela est extrêmement... Ça nous configure cela. Hein. Et donc, n'ayons pas peur. On a ce don unique d'aider des personnes qui croisent notre chemin à manifester davantage ce qu'elles sont. Vous voyez, ce que nous avons à faire, c'est aider les gens à devenir ce qu'ils sont. Voilà, c'est pas à se projeter ou à l'aimer, à les encourager, à prendre soin d'eux, à les materner pour l'épanouissement de ce qu'ils sont. Hein. Et dans cette tâche, on collabore avec le Christ. Hein. C'est la mission vitale de favoriser la vie. Voilà. Encore une mission pour la femme. Aider quelqu'un à devenir ce qu'il est aura sur sa vie un impact spectaculaire et durable. Et cette mission peut prendre de nombreuses formes, de nombreux visages. Hein. Elle incombe cette mission également aux hommes, mais l'appel à materner est propre à la femme. Il est inscrit dans chaque fibre de notre être. Hein. Une amie qui est professeure à l'université à Toulouse me disait, tu sais, des étudiants de l'année dernière, de la promotion de l'année précédente, sont venus me voir en me disant, vous savez, madame, comment on vous appelait l'année dernière avec la promo là, Maman Véronique. Alors, vous savez, pour des étudiants, vous savez pourquoi on vous appelait comme ça, Maman Véronique. Vous êtes la seule à vous être intéressée à nous personnellement. Voilà, c'est ça, materner, c'est être une mère pour ses enfants, pour ses jeunes. Et combien de mères de substitution, on a besoin de mères de substitution dans notre monde. Tant de femmes n'ont pas exercé leur maternité, tellement prises par leur boulot, tellement prises par je ne sais pas quoi d'autre, mais bon, n'ont pas pu assumer ça. Et il y a plein de jeunes qui sont heureux d'avoir voilà, une écoute pendant quelques heures, quelques semaines, quelques mois, une année. Et ça y est, ils vont prendre leur envol parce qu'ils ont eu une mère de substitution. Et ça, donc, pour celles qui n'ont pas enfanté physiquement, je veux dire, vous avez une place incroyable, hein, incroyable, entre les enfants du catéchisme. Je me souviens d'un enfant du catéchisme, moi, qu'on m'a demandé de prendre. Alors, j'ai vu en début d'année, il y avait un rassemblement de cathés, et je vois un petit enfant, mais insupportable. Alors, 4-5 fois, je suis allée le voir, c'était pas moi qui dirigeais le truc, mais pour lui faire taire, pour le mettre à côté. Oh, je me dis, celui-là, il est vraiment pénible. Et celui-là est vraiment pénible. Alors, je vais au... Je reviens chez moi, et coup de téléphone de la maman... Alors je me suis dit, ouf, il ne sera pas dans mon... Je savais qu'il ne serait pas dans mon groupe d'enfants. Parce que il avait déménagé et il n'habitait pas ma zone. Alors, j'étais bien contente, je me suis dit, ouf, je n'aurai pas cet enfant. Et puis, la maman me téléphone dans la semaine, Béatrice... Est-ce que tu accepterais de prendre mon petit pour le cathé? Oh, j'ai dit, si j'en ai déjà 15. Et j'ai argumenté pour lui dire non. Je suis toute seule pour le vivre. Il faut... Non, vraiment, etc. Bon. Et elle, une femme déterminée, elle insiste. Et elle me dit, si Béatrice, je veux que tu le prennes toi. Et quand elle voyait que je résistais encore, elle me dit, tu sais, j'en ai marre. Plus personne ne veut de mon gamin. À l'école, je reçois des coups de téléphone tous les mois, du proviseur, de ci, de là. Voilà, cet enfant, personne ne le supporte, il insupporte tout le monde, j'en ai vraiment marre. Alors là, elle avait touché au bon endroit. Moi qui avais eu des enfants tellement difficiles, alors ça me parlait. Et j'ai dit, bon, tu vas me le laisser. Mais écoute, elle devait venir me le rechercher à 12h30, tout ça, parce qu'elle avait un enfant sourd qu'elle devait emmener à l'hôpital vers midi. Alors je lui ai dit, écoute, tu vas me le laisser à manger, carrément. Parce qu'il faut que je l'aime. Cet enfant, ça ne marchera pas si je n'ai pas une vraie relation avec lui. Que je puisse le materner, ce cher petit. Et je lui ai dit, tu vas donc me les laisser. Elle m'a dit, oh, bah, volontiers, ça m'arrange bien, parce que c'est compliqué pour moi. Et voilà que ce petit vient. Et très vite, donc, voilà, j'ai une manière d'être avec lui. Parce que ce qu'il faut, c'est donner... Nous on n'est pas la mère, donc on n'est pas dans les conflits, on n'est pas dans les... Donc c'est facile pour nous d'être une maman aimante. Et donc je l'ai aimé, je l'ai rejoint dans ce qu'il était. Puis je lui avais proposé aussi de faire de la poterie avec un de mes fils qui est plein de problèmes. Le dernier que j'ai attendu dans l'amour, mais malheureusement j'ai eu un accident et il a été écrasé pendant la grossesse. Du coup, l'accouchement s'est mal passé. Cet enfant est dyslexique, dysphasique, dyscalculique, tout ce que vous voulez, plus surdoué. Donc, avec le fait de ne pas pouvoir écrire comme il faut et puis d'être en même temps très très vif en intelligence, ça a fait un schmilblick tel que, enfin, un truc explosif. Et en cinquième, il a pété les plombs et il ne voulait plus la scolarité. Donc, il a galéré beaucoup, hein, un peu de drogue, etc. Enfin, beaucoup de drogue même. Voilà. Et c'est un enfant qui a pas d'études, qui a rien du tout et qui est hyper intelligent, très cultivé, mais en même temps, voilà, qui est artiste, qui voilà. Et alors, je lui ai dit à ce fils qui était à la maison, qui était déscolarisé, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas accueillir cet enfant? Et alors, ces deux enfants à problème se sont retrouvés ensemble et ça fait merveille. Et alors, il était suivi par une psychologue depuis 3 ou 4 ans, la mère m'a dit. Et au bout de 2 mois, 3 mois, la psychologue a fait venir les parents en disant, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça a un lien avec quelque chose qu'il vit chez une certaine femme en catéchèse. Cet enfant n'est plus le même. Et moi, je me suis dit, bon, ça va durer quelque temps et puis les problèmes vont revenir. Et ça a été définitif. La mère m'a dit, il a changé, mais incroyablement. C'est un enfant qui s'est mis à avoir envie de ranger sa chambre alors qu'il était toujours dans un désordre parfait, aider ses frères et sœurs, etc. Et il a pu faire des études. Enfin, ce garçon a été sauvé, je dirais, quelque part, vous voyez, par un lien, hein, maternel et puis aussi fraternel avec mon fils. Donc, nous maternons lorsque nous offrons notre attention, nos soins, notre consolation. Nous maternons chaque fois que nous apercevons un besoin et que nous faisons quelque chose pour le combler, hein, que ce soit en donnant un pull à quelqu'un qui a froid ou bien offrir une oreille attentive à quelqu'un qui a besoin, qui a mal, qui a besoin d'être écouté. Donc, on est appelé à donner naissance, voyez. Et les femmes, toute femme peuvent accoucher de toutes sortes de choses, hein, accoucher d'associations qu'elles vont créer, d'idées, d'un enseignement. C'est un véritable accouchement. Je peux vous dire que ce matin, c'était un accouchement pour moi, parce qu'on n'aime jamais bien être devant une grande assemblée, une petite assemblée, ça va, mais c'est toujours impressionnant. Et puis, on est jamais, voilà, bref. Mais on peut donner naissance à des idées, à des expressions créatrices, hein. Combien de femmes, toujours une petite martiniquaise qui me disait, ben moi je fais des bijoux. Alors les bijoux que je porte, vous voyez, c'est tout elle qui me les a offerts, ce sont des petites graines d'arbres, voilà, et elle exerce sa créativité là, et elle me dit, je suis comblée par cela, vous voyez, mais bon voilà, enfin ça c'est la créativité, mais encore plein d'autres choses, hein. Toutes les femmes sont faites à l'image de Dieu par leur capacité à donner la vie, vous voyez, c'est ça notre mission. Donner la vie. Et on peut la donner de plein de manières différentes. Comment concilier la vie de famille et le travail? Le défi pour la femme aujourd'hui, c'est de concilier son état d'épouse, de mère, d'éducatrice, ainsi que sa position qui lui revient dans la société. Parce que on a vu combien, bon, la vie de famille est très importante, hein, la femme peut vraiment s'épanouir dans le don de soi en tant qu'épouse et mère, mais le travail est aussi une manière de prolonger et de développer ce don de soi en mettant toutes ses qualités au service, voilà, de la société, et puis en contribuant au bien propre de sa famille, hein. Donc auparavant, malgré la dureté de la vie, il n'y avait pas de problème, il y avait un équilibre entre maternité et travail. Hein, le siècle dernier encore, hein, une femme qui travaillait au champ ou elle avait un petit commerce, quelque chose, bien quand elle était enceinte, c'était la voisine, c'était une belle-sœur qui prenait le relais et ça se faisait sans problème. Aujourd'hui, tout est tellement dans des lois cadrées, des machins, on n'a pas cette solidarité, hein, familiale ou de voisinage, et ça pose de véritables problèmes. Jamais le fait de devenir mère à cette époque-là ou d'arrêter son activité quelques mois ne lui fermait les portes du travail. Les femmes ont toujours travaillé, hein, c'est pas de ce dernier siècle, hein, Moyen-Âge, les femmes travaillaient. Mais maintenant, beaucoup de femmes sont acculées par leur entreprise. Ou vous voulez des enfants, ou vous voulez ce travail, cette promotion, hein. Et donc, des fois, moi j'ai une filleule qui a dû cacher son enfant et le laisser à sa mère pendant quelques mois pour ne pas dire qu'elle avait un enfant, vous voyez, pour avoir la promotion qu'elle souhaitait. Bon. Alors, il faudrait que... Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a rien, mais je voudrais simplement vous dire que c'est important que vous vous mettiez devant un choix libre. Alors, parfois, on n'a pas de choix, c'est vrai, on est obligé de travailler, parce que on n'a pas assez d'argent. Mais des fois, attention, quel choix avons-nous fait quand nous sommes, mettons, si on s'est marié, on a voulu tout de suite la cuisine la plus moderne, le machin le plus moderne, tout le plus moderne, le plus moderne. C'est effrayant. Enfin, à 30 ans, les femmes, elles ont des superbes maisons maintenant, des superbes choses. Et alors, évidemment, après, il faut payer. Et donc, on est coincé toute la vie, on est obligé de travailler toute la vie. Or, peut-être, si on avait été un peu plus raisonnable, en acceptant d'avoir des étagères avec un rideau, plutôt que d'avoir les tiroirs... moi, j'ai eu ça, mais à 60 ans, voilà. On peut vivre sans ça, on peut vivre avec un confort minimum. La famille n'est pas du tout... Les enfants n'ont pas besoin du tout de cet hyper confort maintenant qu'on donne. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Il faut qu'elle se retrouve devant un choix libre pour voir certaines années. Est-ce que je ne reviendrai pas à la maison pour quelques années ? Je ne sacrifierai pas ma promotion peut-être, justement, et je prendrai 3 ans pour, je ne sais pas, je choisis de donner les premières années de sa vie, par exemple, à l'enfant, pour imprimer dans l'enfant, voilà, tous ces codes qui vont le marquer si profondément que la société ne donnera pas notre place. Ou bien alors, moi j'ai d'autres femmes qui ont réussi à trouver des travail à mi-temps, à tiers-temps, qui ont fait du travail à la maison, ou bien d'autres femmes qui ont travaillé toute leur vie, et puis qui, à l'arrivée de l'adolescence des enfants, voyant qu'il y avait plein de problèmes, que les enfants avaient vraiment besoin d'une écoute maternelle, d'être maternés à l'adolescence, certains enfants ont vraiment besoin de leurs parents, et bien la femme acceptait d'arrêter son travail pendant 5 ans. Et tous les cas de figure sont possibles. Il n'y a pas de copier-coller, mais se remettre devant un choix libre et réfléchi, mûri dans la prière, pour voir qu'est-ce qui, au fil des années, va être le mieux pour ma famille, pour le bonheur de ma famille, mais pas se configurer, être bloqué par ce que le monde va nous dicter, voyez, parce que les voisines vont... moi, j'ai des femmes qui, par exemple, des petites parisiennes, qui pourrait tout à fait se passer d'un travail et s'épanouir dans une vie de bénévolat et d'activités super intéressantes. Parce que c'est des femmes qui... Vous savez, des fois, il y a un travail qui n'est pas du tout marrant, hein, quand vous êtes secrétaire toute la journée en train de taper sur un ordinateur. Des fois, vous aimeriez bien faire autre chose. Hein, et la femme qui est à la maison, elle peut faire toutes sortes d'activités. Des fois, elle s'épanouit beaucoup plus. Hein, et on n'est pas forcément épanoui que quand on a un travail à l'extérieur. D'autres femmes, c'est l'inverse. Bon, tout est possible. Qu'est-ce que je voulais dire ? Encore, je vais faire comme notre autre prédicateur. Les petites parisiennes, eh bien voilà, elles regardent. Elles sont formatées par le regard des autres et elles disent « Ah mais nous, si on ne travaille pas, on ne s'intéresse pas à nous. » Quand on sort, on va dans les repas, les mariages. Dès qu'on dit qu'on est mère de famille à la maison, pof, on tourne le dos, on ne nous parle plus jusqu'à la fin du repas. Bon, alors je me dis, là aussi, c'est à nous faire valoir et à montrer qu'on n'est pas idiotes parce qu'on est resté chez nous et qu'on a pu faire développer notre intelligence, qu'on a lu des bouquins. Bon, donc on n'a pas à rester non plus dans ce complexe en disant, je suis une pauvre fille, personne ne s'intéresse à moi. À montrer qu'on peut parler autre chose que des couches culottes. Voilà. Mais vous dire, vous voyez, et des fois des femmes disent, mais moi j'aurais envie de rester à la maison, mais je suis sous cette pression sociale, dire si j'exerce pas un métier, je ne suis pas reconnue. Quoi. Bon, voilà. Donc, on choisira. Chacun verra comment trouver des solutions pour rendre le travail compatible avec une vie de famille si on en a une, etc. Rechoisir au lieu de subir. C'est-à-dire, à des moments, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on reste à la maison, il n'y a pas le choix. Eh bien, plutôt que de subir ça en disant « mais c'est pour moi, je m'enquiquine », il y a des femmes qui s'ennuient vraiment avec des petits-enfants à la maison, mais vraiment pour elles qui ont travaillé, qui ont épanoui leur talent autrement. C'est très très dur d'être chez elles et il ne faut pas qu'elles dépriment. Et là, eh ben voilà, qu'elles aillent sur Internet, qu'elles fassent une formation. Il faut tout le temps garder, ça c'est Edith Stein qui dit beaucoup, que la femme doit faire travailler son intelligence, hein, intelligence discursive, c'est très important, pour équilibrer l'intelligence intuitive. Et nos parents, nous à notre époque, ne travaillaient pas. Moi, ma maman n'a jamais travaillé. Et de fait, ces femmes-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos mères ou grand-mères, mais elles sont plus... Elle reste plus au niveau de la passion, des sentiments, des fois de l'affectivité. Donc c'est vrai que faire travailler notre intelligence, c'est très important. Ça nous donne une objectivité que nous n'avons pas forcément, nous sommes plus subjectives. Et ça vient équilibrer aussi notre intelligence de femme. Et voilà. Alors, dans le champ professionnel, le monde a besoin d'enseignantes pour former les jeunes qui lui sont confiés, pour gagner leur confiance, leur amour, leur transmettre des attitudes, des principes de vie. Elles peuvent vraiment être des témoins authentiques de la vérité, combien on va en avoir besoin dans nos écoles, hein, de femmes qui vont être là pour vraiment redonner des voilà, refuser par exemple toutes ces pressions qui vont venir de la théorie du gender, des modes confuses qui vont troubler nos enfants. Bien, on a besoin de ces femmes, on a besoin de médecins, de doctoresses qui ne se contentent pas de regarder un organe, mais qui vont prendre toute la personne. Hein, on rêve tous d'avoir des médecins qui vont nous prendre dans notre globalité, etc. Tout, un tas de bras féminins pour toutes les professions féminines, sociales, dans la politique. On a besoin de femmes dans la politique. Hein, des femmes qui vont faire respecter la loi, mais pas au pied de la lettre, hein, qui vont toujours regarder la personne plutôt que la loi, voilà, s'en tenir qu'à la loi, voyez, mais indépendamment de la profession qu'elle exerce, la femme peut en tout lieu, toutes circonstances, laisser sa maternité porter ses fruits et exercer par là une action bienfaisante. Partout elle rencontrera des êtres humains, elle trouvera l'occasion d'apporter son soutien, de dispenser ses conseils, de prêter secours. Le besoin de marque d'intérêt d'un secours maternel se fait sentir partout. Et nous pouvons résumer par cet unique terme de maternité, cette valeur spécifique de la femme. Voilà. Jean-Paul II disait que la femme était appelée à humaniser la société. C'était le génie féminin, ça. Hein, le génie féminin, c'est humaniser la société. Alors, je n'ai pas le temps de lire, mais vous aurez des citations de Jean-Paul II sur la petite feuille de citation. Et juste faire un lien pour terminer, je l'ai fait un peu ce matin, mais le redire encore, que le lien de la maternité avec le mystère pascal. La femme a une capacité de souffrir étonnante. Il lui a été donné, après la chute du jardin d'Éden, j'aime toujours revenir à cela, il lui a été donné, on lui a dit, la femme, elle enfantera dans la douleur. Alors moi j'aime bien ajouter tout de suite une phrase de Jésus. Oui, mais la femme qui a accouché, elle ne se souvient plus des douleurs de l'enfantement, tout à la joie de l'être à qui elle a donné la vie. Donc, mais nous avons cette capacité effectivement, nous, à réceptionner, puisque nous sommes tous dans la réception, à réceptionner aussi et à vivre la souffrance, et qui peut devenir, bien sûr, et qui va devenir compassion. Voilà, cette compassion va l'unir à toutes les souffrances qu'elle va pouvoir accueillir et offrir. Edith Stein aurait beaucoup à nous apporter sur cette science de la croix et dont elle parle et qui porte un fruit qui nous dépasse. Alors, le fruit de cette adhésion, donc c'est à travers toutes ce que nous avons à vivre les unes et les autres dans notre état de femme célibataire, qui n'en pouvons plus peut-être d'un célibat qu'on n'a pas choisi. Quelle épreuve. Pour moi, c'est je le ressens comme une terrible épreuve d'avoir voulu fonder une famille et de n'avoir pas pu fonder cette famille. Hein, alors qu'on est fait pour ça, c'est vrai. Voilà, eh bien, pouvoir offrir cette souffrance d'un veuvage peut-être, d'un divorce qu'on n'a pas voulu, cette blessure de trahison qui est venue nous transpercer l'âme. Et donc retrouver notre dignité, confiance en nous-mêmes alors qu'on a été trahis, etc., etc. Toutes ces mères qui ont eu des enfants qui prennent des voies de destruction, hein, et j'en fais partie. Voilà. Alors tout cela, c'est vraiment, il faut regarder Marie au pied de la croix, Mater Dolorosa, hein, la maman, qui avec son cœur transpercé, il a fallu qu'elle soit vraiment complètement transpercée dans son cœur. C'est-à-dire que son fils chéri, qu'elle a unique, lui soit arraché. Il l'a été un peu tout au long de sa vie terrestre. Hein. Son fils lui a été enlevé, hein, petit à petit. Hein, justement, ce qu'on a reçu ce matin, qui sont mes frères et mes sœurs, hein. Quand on lit ça à Marie, c'était dur pour Marie. Hein, c'est, voilà. Et puis ainsi de suite. Mais au moment de la croix, c'est incroyable ce qui se passe. Cet enfant qui lui est enlevé, qui lui est arraché dans une douleur maximum, pas plus forte douleur que celle-là. Elle n'avait pas du tout envie de cela. Et on lui dit, eh ben, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Elle devient la mère de tous les hommes. Parce qu'il y a eu cette immense souffrance d'arrachement. Il fallait que son enfant lui soit enlevé pour que nous ayons une place, tous, pour des générations et des générations, que toutes les générations qui allaient venir puissent être accueillies dans le cœur d'une maman. D'une maman. Mais voyez, c'est par la fécondité de Marie, elle est venue dans cette croix énorme qu'elle a dû partager avec son fils au Golgotha. Eh bien, nous sommes tout appelés à vivre quelque chose, une part, mais qui sera infime par rapport à ce que Jésus, ce que Marie a vécu, mais on aura une participation légère, mais par rapport à celle de Marie. Mais on aura une participation à cette croix. Eh bien, adhérons là encore, adhérons, donnons notre fiat pour cette souffrance que j'ai à vivre maintenant. Parce que c'est elle qui va me permettre d'avoir une fécondité. La vraie fécondité, elle ne vient pas des missions voilà, sur le devant de la scène. Moi, j'aimerais tellement faire ci. Oh là là, elle a de la chance, elle fait telle chose. Oh là là, mais moi, j'aurais aimé évangéliser comme ça, j'aurais aimé faire ça. Voilà, tout cela, ça c'est du brillant, mais c'est pas ça qui va compter. Quand vous arriverez au ciel, c'est les fiat que vous avez donnés. Je disais ce matin, les passivités dans votre vie, tout ce que vous avez à vivre, de pouvoir consentir simplement en restant unis dans l'amour à Jésus. Alors c'est ça qui nous permet de tout traverser, comme Marie est restée unie à son fils, et nous devons rester unis à Jésus pour traverser l'épreuve dans un pâtir, je dirais, parce qu'il y a une passion à vivre, dans un pâtir d'amour. Ne jamais, jamais fermer la porte de notre cœur parce qu'on a été blessé. Parce que ça ferme la circulation de l'amour. Et alors là, c'est le désastre. C'est forcément la dépression, c'est forcément la tristesse, c'est forcément l'échec, c'est forcément... Vous voyez. Et donc, toujours laisser cette porte ouverte de notre cœur pour que Jésus vienne nous étreindre et nous aimer dans notre souffrance. Et qu'est-ce que nous demande le Seigneur ? Il nous demande, dans cette souffrance que nous avons les uns et les autres à traverser, il nous demande de chanter et de danser pour bien montrer qu'on est heureux, que lui prend tout et qu'on est sûr qu'il va faire quelque chose de merveilleux avec cette souffrance. Mais voyez, parce que si on est triste et tout ça, pour Jésus, ça doit lui faire vraiment mal au cœur, quoi, de voir ses enfants tristes. Il nous veut heureux, ça j'en suis sûre. Il nous veut heureux. Et moi je me suis dit, mais croisez les bras, comment tu vas faire, Seigneur, avec toutes les galères qu'on vit pour me rendre heureuse ? Je me demande bien comment tu vas faire. Mais vas-y, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Et il m'a appris petit à petit, voilà, même si les choses s'enchaînent, ça fait 20 ans que ça dure, et je pense que ça durera encore quelques années. Au début, j'espérais, ah oui, on va tenir parce qu'il va y avoir le résultat fabuleux. Je pourrais vous dire, ça y est, j'ai un fils prêtre, j'ai un autre fils qui a fait ci, qui s'est converti, un autre qui est missionnaire. Eh ben non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qu'on vit, c'est encore des galères. Mais dans ces galères, je sais que Jésus prend tout. Jésus s'occupe de tout. C'est mystérieux pour nous, ce que nous avons à vivre comme part d'oblation de croix dans nos vies. Mais si nous consentons à les vivre avec lui, il ne nous enlèvera pas la joie. Il nous laissera la joie. Cette paix profonde, profonde du cœur. Bon, quand nous avons la chance d'être en couple, eh bien, un amour qui est sans cesse rajeuni par cette communion, vous voyez, cette communion dans la souffrance. Voilà, quand on peut être à porter ensemble une souffrance pour nos enfants, eh bien, voilà, donc ça n'éteint pas, ça donne une jeunesse au contraire à notre amour, voyez. Et puis on aura toute l'éternité après pour vivre, alors à ce moment-là, j'ai un émerveillement évidemment. Voilà, et je vais bientôt terminer là. Voilà, et les intéressés chantent des chants de joie. Car ce qu'ils ne peuvent réussir, ils sont certains que Dieu y parvient. Et le Seigneur est heureux d'accomplir du travail. Parce que je pense que votre souffrance offerte, elle va faire démarrer une chaîne immense d'autres guérisons semblables. Et Dieu va être glorifié. vous enverrez peut-être pas forcément les fruits à cette génération-là. C'est peut-être, moi je me dis, c'est peut-être la génération de mes petits-enfants, hein, où il y aura de très belles choses. Hein, et, mais voilà, mais en sachant, vous, quand vous offrez votre souffrance que vous avez à vivre, ça fait démarrer, parce que vous, vous êtes relié au Christ. Et d'autres gens vivent la même épreuve que vous, un veuvage, un célibat, etc., mais ne sont pas reliés au Christ. Et c'est tous ces gens-là que vous sauvez, qui ne tomberont pas dans le désespoir, parce que vous, vous êtes reliés au Christ. Et vous tenez une chaîne d'autres personnes qui seront entraînées dans l'espérance, mystérieusement. Et c'est ça qu'on va voir quand on arrivera au ciel. On sera émerveillés, te dire « Ah, mais c'était pas là du tout que je pensais que j'aurais pu porter du fruit. Hein? » Voilà. Du coup, eh bien, ce qui était nos croix, ce qui était Berck, ça devient superbe, ça devient le lieu de notre sainteté, le lieu de notre fécondité. Amen. Amen. Amen.